Délivrez-moi vous est proposé en partenariat avec les librairies chrétiennes Siloé.
Notre invité du jour est maire de la plus petite commune du Maine-et-Loire. Il est aussi le patron d'un tout petit musée. Il conduit des cars de temps à autre et il est passionné d'histoire de la marine. Jean-Christophe Rouxel est le premier édile de la Landschall et fourmille d'idées pour faire vivre sa commune. Mais il est aussi réserviste dans la marine et il a beaucoup d'autres casquettes. Entre l'amour de la République et l'amour de la royale, le drapeau noir flotte sur la marmite. Vous êtes sans aucun doute dans Délivrez-moi sur RCF.
Délivrez-moi, Théophane Leroux sur RCF Anjou.
Jean-Christophe Rouxel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu dans notre émission. Alors, vous êtes venu avec un livre que vous avez souhaité nous présenter. Quel livre avez-vous apporté ?
Alors, le livre que j'ai apporté s'appelle... Le titre, c'est « 177 visages du jour J », un livre coécrit avec Benjamin Massieu, qui a fait le plus gros du travail, puisque moi, je me suis limité, entre guillemets, à la recherche des photos manquantes des visages des 177.
Qui sont les 177 ?
Donc les 177, c'était des commandos français qui ont été les seuls français à participer au débarquement du jour J, le 6 juin 1944.
C'est le fameux commando Kieffer ?
Voilà, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui commando Kieffer, parce que c'est plus facile à retenir. Et dans l'esprit, en effet, il était commandé par Philippe Kieffer. Mais à l'époque, ça s'appelait le BFMC, Bataillon des Fusils Marins et Commandos.
Et vous, donc, dans ce livre, vous avez votre rôle, ça a été de chercher les photos de ces soldats.
Alors, en fait, la démarche a commencé en 2014, où la Marine nationale a appris que la plage retenue pour la cérémonie internationale, en présence de tous les chefs d'État, était la plage où, justement, avaient débarqué les commandos du jour J. Et à notre grande surprise, en janvier 2014, on découvre que sur les 177, il manquait 21 visages. Donc, étant employé depuis 2006 dans le cadre de la réserve auprès du musée des fusils marins et commandos, j'ai attaqué cette démarche de retrouver les visages avant le 6 juin 2014. Et grâce à de nombreuses personnes qui ont aussi participé, grâce à Internet, grâce aux familles qui se sont mobilisées, on a pu retrouver 19 visages. Il en manquait encore deux. L'avant-dernier a été retrouvé que l'année d'après et il a fallu attendre 10 ans pour avoir le dernier visage, celui d'Émile Renault, qui a été confirmé que fin 2024.
Comment est-ce que ça s'est passé, ces recherches ? C'était presque une enquête policière parfois, j'imagine.
Ah, tout à fait, oui. C'est un peu le Sherlock Holmes de la marine. Il a fallu vraiment chercher partout, voire même reconstituer des arbres généalogiques pour retrouver des neveux, des nièces, des documents perdus. Ça a été vraiment une très grosse mobilisation et à chaque fois une belle poussée d'adrénaline quand on sentait qu'on allait arriver au bout.
Touche au but. Il y a quelques années, dans une vie antérieure, j'avais interviewé Léon Gauthier, qui était le dernier commando vivant.
C'est ça, qui était le fer de lance du groupe, qui d'ailleurs est décédé le dernier.
Voilà, qui effectivement était... qui était le dernier commando en vie. Et il me disait que les commandos avaient été bien oubliés. Cette histoire des photos, c'était un peu symbolique de ça, finalement, qu'on retrouve qu'il manque autant de photos
sur aussi peu
de personnes. Il y a eu un oubli autour de ce groupe de
commandos. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'on en entende parler, alors qu'à l'origine, après la guerre, du fait qu'ils avaient servi sous commandement anglais, par rapport au général de Gaulle, le général de Gaulle avait pris l'option de plutôt parler du débarquement en Provence que de celui de Normandie. Et donc ça n'a pas aidé à remettre en valeur tout ce groupe de commandos.
Participer à un livre comme ça, pour vous, c'était une façon de participer à cette mémoire ?
Oui, tout à fait. D'autant plus qu'en parallèle, je gère un site internet qui s'appelle Parcours de vie dans la Royale, qui compte aujourd'hui plus de 24 000 biographies d'officiers de marine et fusiliers marins et commandos. Et en effet, il n'y a rien de pire que d'oublier quelqu'un dans l'histoire alors que chacun a mis sa pierre à l'édifice.
La Royale, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom pas officiel de la Marine nationale.
C'est ça, tout à fait.
Et oui, donc c'est ce que j'allais dire. Vous êtes également le créateur de ce site donc qui recense 23 000 biographies d'officiers de la marine et puis d'autres unités. C'est un peu un sacerdoce, ce site, non ?
C'est ça. Quand on est passionné, automatiquement, on essaye de continuer le travail. Et en l'occurrence, c'est un travail sans fin, puisque au départ, c'était une recherche et une mise à disposition que des biographies des anciens élèves de l'école navale. Et en 2017, le site s'est ouvert à toutes les autres disciplines. des ingénieurs mécaniciens, des médecins, voire même jusqu'au lieutenant d'infanterie de marine. Et donc c'est comme ça que le site se développe et il se développe aussi surtout par le fait que les familles sont ravies que des personnes qui même dans leur famille ont été oubliées soient remises à l'ordre du jour.
Et c'est important pour vous d'avoir toutes les biographies parce que parfois on peut se dire bon, il y a des gens qui ont des vies un peu exceptionnelles mais il y en a d'autres, bon voilà, ils ont...
Oui, donc, au départ la marine, puisque c'était dans le cadre de la réserve, l'école navale m'avait demandé de faire un site internet sur l'espace tradition école navale qui se trouve au rez-de-chaussée de l'école et où on parlait de l'école navale et où on parlait en effet des principaux officiers connus comme Tabarly, Cousteau et autres. Et de l'autre côté, il y avait quand même plus de 100 élèves chaque année et chaque élève a donné sa pierre à l'édifice. Sur un bateau, on a un esprit d'équipage, entre guillemets, où du matelot au commandant, tout le monde a sa part et s'il en manque un, ça ne fonctionne pas très bien. Donc automatiquement, il était important de mettre en avant tout le monde.
Toujours sur cette thématique de la Marine nationale, vous avez aussi créé un petit musée qui est dédié à l'orage.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce...
Ben en fait, j'ai la joie d'être le président fondateur de l'Amicale des anciens marins du TCD Orage, donc TCD Transport de Chalands de Débarquement. C'est un bateau qui a été construit dans les années 67, qui a navigué jusqu'en 2007. Et qui était un bâtiment de transport de troupes, navires hôpital et porte-hélicoptères, qui était bien moins connu que la Jeanne d'Arc, bien entendu, mais qui aujourd'hui a l'avantage d'avoir un musée dédié du fait que justement l'orage a été déconstruit en 2018 en Belgique et aujourd'hui il n'existe plus que dans la mémoire des anciens marins et par le biais de ce musée avec toutes les pièces qu'on a pu sauver.
C'est un tout petit musée.
C'est un tout petit musée. Alors, il s'est agrandi récemment puisqu'on a eu l'avantage de faire une restauration d'une maquette navigante de 3 mètres de long. Mais à l'époque où on n'avait pas encore cette maquette, l'ensemble du musée était dans un conteneur maritime de 6 mètres de long et il pouvait être en effet classé peut-être le musée le plus petit de France.
Et aujourd'hui, c'est plus le plus petit musée.
Non, parce qu'il a doublé de taille.
Et vous connaissez les autres musées qui sont plus petits ?
J'ai souvenir dans mes recherches qu'il y avait un musée dans le Nord de produits pharmaceutiques et tout était dans une pièce de 3 mètres carrés.
Ah oui, il y a encore un effort de miniaturisation
voilà,
à faire.
C'est ça.
Et pourquoi c'est important pour vous ? Tout ça, c'est lié avec la transmission finalement. Oui. C'est important pour vous de transmettre cette... On pourrait dire ça sans aucun jugement de la petite histoire, c'est pas de la grande histoire,
c'est
pas.
Non, c'est la petite qui fait la grande.
Ouais. Et pourquoi ça a de l'importance pour vous ?
J'ai été bien marqué, justement, vous parliez de Léon Gauthier tout à l'heure. Il se trouve que je le côtoyais tous les ans aux cérémonies du 6 juin, et ça pendant une dizaine d'années. Et j'ai été bien marqué par le fait que, justement, il mettait toujours en avant, pas son action à lui, mais l'action de l'ensemble du groupe et de ses camarades. Et que chacun avait, en effet, mis sa pierre à l'édifice. Malheureusement, certains y étaient restés, d'autres ont été blessés, d'autres ont été complètement abandonnés dans la mémoire, justement. Dans ma réflexion, il y en a un qui avait fini gardien de caravane chez lui. Enfin, toujours est-il que je trouvais dommage de ne pas mettre en avant toutes ces personnes. Et aujourd'hui, la magie d'Internet permet de le faire. Donc, autant profiter de tous ces outils. Et puis surtout, de pouvoir scanner, puisque personnellement, moi, j'ai aucun document chez moi. C'est que de la numérisation. Donc, il est très facile aujourd'hui pour les familles, en effet, de numériser n'importe quel document, une photo, une fiche matricule, etc., et de me la transmettre par mail. Et quand, par contre, ces familles souhaitent donner des objets, ils sont automatiquement orientés soit vers l'école navale, soit vers le service historique de la Défense.
Et pour vous, c'est important de faire un peu l'office de passeur, si je puis dire ?
Oui, passeur de mémoire, c'est pas mal comme terme.
C'est presque un terme maritime, finalement, le passeur, c'est celui qui est passé d'un bord à l'autre.
C'est ça. Après, la difficulté, en effet, de continuer ce travail chaque année. Là, dernièrement, j'ai été obligé de changer de serveur, par exemple. C'est une petite anecdote informatique, mais le serveur sur lequel j'étais avant, qui a duré 15 ans, il s'est retrouvé débordé, donc il a fallu que j'en change. Donc, automatiquement, de rechanger d'adresse, et ça a entraîné un petit peu de soucis quelques semaines. Mais après, la difficulté, ce sera peut-être, parce que tout le monde, on n'est pas immortel, malheureusement, ou heureusement, parce que ça sera peut-être long pour certains. Toujours est-il que il va falloir trouver quelqu'un qui prendra la suite. Et puis, c'est ça le côté le plus compliqué.
Oui, trouver quelqu'un pour transmettre la transmission.
Voilà, c'est ça.
Des livres et moi sur RCF Anjou.
Vous êtes toujours sur RCF dans l'émission Délivrez-moi et je reçois donc aujourd'hui Jean-Christophe Rouxel. Nous avons un peu parlé de la mer, mais je voulais vous poser la question de savoir comment on devient maire, vous me pardonnerez ce jeu de mots, d'une petite commune comme la Landschaal, parce que si vous êtes du Maine-et-Loire, d'où vous vient cet amour de l'océan? Ou si vous êtes du côté de la mer, pourquoi êtes-vous arrivé
Alors
dans cette commune?
C'est l'inverse, en fait. J'habitais 20 ans à Brest et mes parents étaient de Saint-Malo, donc j'étais plutôt du bord de mer. Il se trouve que j'ai fait un service long de 2 ans sur l'orage, justement, donc ça, c'est une expérience qui m'a fortement marqué. Et du coup, je devais naturellement m'engager dans la marine, puisqu'en plus, j'avais été 13 ans au scout marin avant. Sauf que le destin en a voulu autrement, puisque avant la fin de mon service militaire, j'ai rencontré mon épouse d'aujourd'hui, qui était monitrice d'équitation. Et du coup, je suis parti dans le milieu du cheval, au lieu de partir dans le milieu de la mer. Et ce n'est qu'en 2006 que j'ai retrouvé la réserve, grâce à l'orage d'ailleurs, mais ce sera encore une autre histoire à raconter. Toujours est-il que mes beaux-parents habitent en G, à côté de Beaufort. Avec mon épouse, on a travaillé dans 6 régions différentes en un peu plus de 10 ans, de manière à voir un peu les bêtises qui étaient faites chez les autres avant de s'installer. Et quand on a pris cette option de nous installer, rien de plus naturel que de se rapprocher des grands-parents, puisque j'ai 2 garçons qui sont nés en 98 et 2000, et on a ouvert le centre équestre en 2001. Et c'est une activité qui est plutôt orientée mercredi et week-end. Donc on avait vraiment la nécessité d'avoir les grands-parents pas loin pour pouvoir s'occuper en renfort pour nos enfants en bas âge. Et le destin a fait qu'on s'est retrouvé à la Landschaal avec un projet qui, lui, était orienté plutôt en Touraine. Mais quand on a commencé à se promener à cheval à la Landschaal et qu'on était en abord direct de la forêt domaniale de Monet, où il y a plus de 4000 hectares de forêt et de chemins divers et variés, tout naturellement, on s'est installé là où on était.
Et tout naturellement, vous êtes engagé dans la vie locale aussi?
Alors en fait, je suis arrivé sur la commune en novembre 1999 et le maire de l'époque, monsieur Bernard Jousset, qui a fait 6 mandats dont 5 de maire, qui malheureusement est décédé en janvier du début de cette année, m'avait proposé d'entrer au conseil municipal en 2001. Donc ce que j'ai fait tout naturellement, d'une part par le fait que pour avoir l'intégration la meilleure possible, il était normal de s'impliquer dans la vie locale, alors que j'étais breton d'origine. Et d'autre part, de par mon passé familial, il se trouve que ma mère a été conseillère municipale et vice-présidente de la communauté urbaine de Brest dans les années 80. Et donc j'ai vécu une adolescence où je voyais que mes parents étaient bien impliqués aussi dans la vie locale. Donc le virus a été transmis.
Aujourd'hui, on parle beaucoup du malaise des maires, des élus locaux. C'est quelque chose que vous ressentez? Ou est-ce que la taille de votre commune, ce qui est la plus petite du Maine-et-Loire, fait que vous êtes un peu préservé de certains problèmes?
Alors, on est préservé, en effet, dans un sens. Dans l'autre, c'est une micro-société à la taille de 119 habitants. Donc, automatiquement, on a affaire à tous les cas de figure, tant sociale que politique. Et donc, par nature, moi, je suis un maire sans étiquette. Et on a une règle, entre guillemets, au conseil municipal de ne jamais parler ni de politique nationale ni de religion, de manière à cibler l'effort sur la commune. Et c'est l'intérêt de la commune qui prime, en fait.
C'est quand même amusant de se dire qu'on ne parle pas de politique. Enfin, vous êtes un homme de la politique locale et finalement, vous ne parlez pas de politique au quotidien.
Pas de politique nationale qui pourrait créer des clivages, en fait.
Pour votre commune, vous vous démenez beaucoup pour lui donner un peu de visibilité. Alors, je cite des choses en vrac. Il y a eu une visite de l'Élysée avec, je crois, quasiment la moitié de votre population.
C'est ça, j'étais au volant du car.
Vous étiez au volant du car, des concours, de la communication sur les réseaux sociaux. C'est important de donner toute cette visibilité à une...
En fait, il se trouve que, comment dire, à l'époque où j'étais conseiller municipal, parce que donc, j'étais élu maire en 2014, et j'étais conseiller avant de 2001 à 2014, il se trouve que mon deuxième fils, qui était en 6 au collège de Longue et Jumelles, me ramène comme tous les parents un papier à remplir, enfin qu'il avait rempli, pré-rempli, pardon, et sur lequel était marqué nom, prénom, adresse, etc. Et il avait mentionné sur le nom de la ville, au lieu de marquer la Landschaal, il avait marqué commune, une petite commune à côté de Longue et Jumelles. Et donc j'avais dit, mais je comprends pas, pourquoi t'as pas marqué la Landschaal? Et il me répond, ah non, surtout pas, on est 30 dans la classe, je suis le seul de la Landschaal, il est hors de question que les copains et copines sachent que je viens de la Landschaal, parce qu'autrement je vais être pourri et ça va être très compliqué. Et donc j'étais un peu vexé sur ce coup-là, et en discutant avec les uns et les autres, j'ai eu aussi d'autres anecdotes, comme un couple qui se sont rencontrés lors d'un bal à Longue et Jumelles, et lui avait menti en disant qu'il venait d'une autre commune, et après coup, son épouse récemment m'a dit en effet, s'il m'avait dit qu'il venait de la Landschaal, j'aurais surtout pas dansé avec lui. Donc automatiquement, tout ça se cumulait, et je trouvais dommage que la Landchale, ok, on est une petite commune rurale, ok, on est que 119 habitants, mais chaque commune a ses avantages, ses inconvénients, ses atouts. Et entre autres, nous, on a la chance d'être dans un environnement plutôt nature et calme, comme la devise, qui d'ailleurs a été votée par les habitants.
Et la devise, c'est nature et calme.
La devise, c'est nature et calme, oui. On avait fait cette... les habitants avaient à choisir entre plus une dizaine de devises qu'ils avaient eux-mêmes sélectionnées. Et donc, nous, on s'était engagé à ce que cette devise soit brodée ensuite sur le drapeau communal. Et pour l'anecdote, on a fait ce vote lors des élections européennes de 2017, si ma mémoire est bonne. Toujours est-il que j'ai appris après coup qu'en fait, on n'avait pas le droit de faire un référendum et une élection européenne en même temps. C'est le seul scrutin où on n'a pas le droit de faire deux choses en même temps, même si c'est dans deux pièces différentes. Et donc, à l'époque, d'ailleurs, j'avais reçu un coup de fil du préfet me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé à la Landchale ? La moyenne de participation, c'est 30% pour le département et vous êtes à 95. Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Et vous êtes habitué à avoir des gros taux de participation, ouais. Cela dit.
Et en final, c'était parce que les habitants s'étaient déplacés pour voter la devise et comme ils étaient sur place, ils ont voté pour les Européennes. Et donc, il y avait une devise, c'était le bonheur de l'écureuil au fond des bois. Et on s'était dit, punaise, j'espère que celle-là, elle ne va pas passer parce qu'à 8 euros la lettre, ça va en plus nous coûter un bras.
Vous avez peut-être des soucis avec la caisse d'épargne.
Voilà.
Vous avez aussi, je crois que vous êtes sans doute le seul maire de France à avoir emmené la moitié de vos administrés en car à l'Élysée.
Ouais, peut-être bien.
Ça, c'est un record qui devrait être dans le Guinness Book.
Ouais, il y a une autre fois où il y a eu deux cars d'organisés pour aller au Salon de l'Agriculture. Et donc, il y avait bien entendu pas que des habitants de la Landchale, il y avait aussi tous ceux des communes voisines, mais en statistique, il y avait 120 personnes. Et donc, la personne qui lisait ça pouvait croire que la commune était vide pendant une journée. Et donc, d'ailleurs, pour l'anecdote, les gendarmes avaient fait des patrouilles toute la journée parce que, comme c'était diffusé sur les réseaux sociaux qu'on était parti au Salon de l'Agriculture, il fallait pas tenter quelques-uns.
Et c'était important cette visite de l'Élysée pour vous ?
Eh bien, en fait, c'est une récompense faite aux habitants, puisqu'il y avait eu un défi qui leur avait été lancé de venir le plus possible voter lors des élections présidentielles et législatives. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans chaque département, quand il y a des élections, la commune dans laquelle il y a eu le plus de votants est récompensée par une Marianne d'or. Et donc, en l'occurrence, nous, on avait 95% des habitants qui se sont déplacés. Sur 80 électeurs, à peu près, il y avait 4 personnes qui, malheureusement, n'étaient pas venues, mais pour des raisons de santé. Et donc, ils ne pouvaient même pas donner procuration par rapport à leurs problèmes de santé. Donc, en fait, on a eu 100% de ceux qui pouvaient venir. Et du coup, j'avais écrit au président Macron, à la suite de ça, pour lui demander si c'était possible de venir visiter l'Élysée en remerciement du sens civique des habitants, sachant qu'on avait déjà visité le Sénat et l'Assemblée nationale auparavant.
Vous commencez à les connaître par cœur.
Et du coup, ça a été validé. Donc, on s'est retrouvé à 60, puisqu'il était autorisé deux groupes de 30 à visiter. Et exceptionnellement, il nous a été autorisé de regrouper les deux groupes à la moitié du temps. Ce qui explique pourquoi on se retrouve à 60 sur le perron. Et on avait le blason avec nous. Alors que le défi du blason, lui, n'a commencé réellement qu'en février 2023. Et là, on était en novembre 2022.
Alors, c'est quoi ce défi du blason ?
Alors, ce défi du blason, en fait, en 2020, on a remporté le trophée du plus beau blason de France sur Twitter. C'était des matchs qui duraient 24 heures et on s'est retrouvé en compétition face à des communes comme Vannes en quart de finale, Saint-Malo. Alors Saint-Malo, c'est un comble pour moi puisque ma famille étant de Saint-Malo, je me retrouvais en concurrence avec Saint-Malo. Et puis en finale, on a gagné contre Quiberon. Donc résultat, on a eu donc ce trophée du plus beau blason de France attribué. Et en 2023, en février, j'ai la commandante de la communauté de brigade de Longuet-Jumelles qui part à titre privé pendant ses vacances aux Maldives et elle nous fait une photo du blason et elle nous l'envoie. Et donc quand j'ai reçu cette photo, ça fait tilt, on s'est dit, on l'a fait en France, allez hop, on part à l'international. Et comme on est la commune la plus performante de France sur Instagram depuis janvier 2023, proportionnellement au nombre d'habitants et au nombre d'abonnés et au nombre de messages postés, etc. Toujours est-il que c'est parti en buzz sur Internet et au jour d'aujourd'hui, on est à presque, alors je dis presque parce qu'on est à 4491 photos reçues du monde entier par 99% de gens qu'on ne connaît pas et qui nous ont envoyé des photos de notre blason partout dans le monde. Donc ça a été jusqu'au sommet de l'Everest. Au plus haut. Ça a été dans un sous-marin de l'Ifremer de Brest, un sous-marin civil où l'exploratrice nous a fait une photo du blason à moins 3000 mètres, enfin un peu plus. Et puis, dans tous les pays du monde, le plus compliqué, il a fallu attendre presque 8 mois pour l'avoir, celle-là, c'était en Corée du Nord. Oui. Et on a eu 4 photos en Corée du Nord, dans la capitale. Alors, en plaisantant, on dit on n'a aucune nouvelle du photographe, mais non, ce n'est pas vrai.
Et c'est quoi votre secret pour trouver du temps et des idées pour tout, tout?
Alors, le secret, c'est que je dors peu, en fait. Donc, automatiquement, ça m'occupe aussi.
Forcément.
Voilà. Et donc, on va recevoir prochainement un diplôme au Guinness Book du blason communal le plus photographié dans le monde. Et le dernier défi qu'on a lancé, c'est de voir notre blason photographié dans la station spatiale l'année prochaine avec Sophie Adnaud. Donc, pour l'instant, c'est un suspense complet.
Des livres et moi, Théophane Leroux sur RCF Anjou.
Nous réatterrissons après ce petit passage dans les étoiles. Vous êtes toujours sur RCF avec Jean-Christophe Rouxel dans Délivrez-moi. On a évoqué tout à l'heure brièvement, vous êtes quelqu'un donc d'engagé au sens social du terme, pas politiquement. Il y a aussi la réserve militaire, c'est un engagement que vous avez depuis longtemps?
Oui, je l'ai depuis 2006. En fait, ça a commencé grâce à l'orage. Donc, c'est pour ça que j'ai une attache très, très forte avec ce bâtiment de la Marine nationale. Parce que, en fait, en rangeant mon grenier, je suis tombé sur les photos que j'avais fait pendant tout mon service militaire, de 88 à 90. Et donc, l'idée, tout naturellement, puisque j'avais l'habitude de faire ça, j'ai fait un site internet sur ce bateau, sur ma période. Et à ma grande surprise, je découvre sur internet que le bateau, il n'est pas en retraite, il est toujours en activité. Donc, naturellement, j'envoie un message au commandant pour lui souhaiter les vœux en début d'année 2005. Et ensuite, je lui indique que je me suis permis de faire un site internet sur son bateau, mais seulement sur la période. Voilà. Et en début janvier 2005, je me retrouve avec un appel du commissaire du bord. Donc le commissaire, c'est celui en charge des achats. Et qui m'indique que le commandant a bien reçu mon message, qu'il est très content que lui a eu comme consigne de faire un site internet sur le bateau, sur l'histoire, puisqu'il a navigué pendant plus de 40 ans avec plein d'histoires incroyables. Sauf que lui, il n'a pas le temps et que le bateau va être désarmé en juin 2007. Et donc, du coup, le commandant me propose de gérer ce site internet et que ce site devienne le site officiel du bateau jusqu'à la fin. Donc déjà, je m'assois parce que j'avais quitté le bord en 90 et on était en 2007. Donc voilà. Et là, il me rajoute une dose en me disant la semaine prochaine, donc le bateau était basé à Toulon, la semaine prochaine, on part une semaine en mer, le commandant vous invite à bord. Et donc, je me retrouve à embarquer de nouveau en tant que civil, des années plus tard, en sachant en plus que le bateau allait être désarmé. Donc, c'était vraiment les derniers cas de figure. Et reçu par le commandant à déjeuner, il m'indique que je suis autorisé à faire toutes les photos que je veux et toutes les vidéos à bord du bateau, sauf le PC communication, parce qu'étant civil, j'y avais pas accès. Et par contre, tout le reste, en plus connaissant le bateau par cœur, j'avais une très bonne expérience de mon service militaire. J'étais déjà le chauffeur du commandant à l'époque. On avait un véhicule à bord et donc à chaque fois que le bateau était à quai, j'étais le premier débarqué. Toujours est-il que donc je fais plein de photos et j'ai eu la joie de réembarquer 3 fois avant le désarmement. Et lors du désarmement, qui traditionnellement est ouvert qu'aux anciens commandants, et ben ce commandant nous a ouvert les portes et il y a eu 60 anciens marins qui ont pu embarquer puisque le site, bien entendu, a pris de l'ampleur. On n'est plus resté à 88-90, mais on a dégagé toutes les photos de 1967 à 2007. Pardon.
C'est important pour vous de s'engager justement pour des causes comme celle-ci, comme d'autres, pour au service des autres, etc.
Là, du coup, ça a donné lieu à un moment. Il y avait tellement d'anciens marins derrière qui poussaient, entre guillemets, à ce qu'on n'oublie jamais l'orage, qu'en 2017, j'ai créé l'amicale des anciens marins de l'orage. Et le millésime 2025, on était 176 anciens marins, de tous grades. Et le dernier commandant de ce bateau est aujourd'hui membre d'honneur de l'amicale.
Vous avez été aussi, vous l'avez mentionné brièvement, vous avez été scout marin.
Oui, pendant 13 ans, de l'âge de 7 ans à 20 ans.
Qu'est-ce que vous avez appris dans le scoutisme?
Ah bah déjà, le fait de faire un peu attention à l'autre. Ça, c'est automatiquement... c'est comme sur un bateau, hein, c'est pareil. C'est quand on est une troupe... et puis ça m'a permis de naviguer, puisqu'c'était à Brest, donc on avait des canottes à notre disposition. Et j'avouerai que tous les week-ends, j'étais bien content d'aller naviguer.
Est-ce que... C'est une question peut-être un peu personnelle, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez besoin de quelque chose de plus. À chaque fois, vous avez besoin de vous engager pour votre commune, vous avez besoin de vous engager au service de la marine.
C'est un peu de la drogue, en fait.
C'est un peu de la drogue, oui. Ouais,
de l'addiction. C'est-à-dire qu'il y a... J'étais marqué par les photos, en fait, à la recherche de ces photos-là, où c'est vraiment cette poussée d'adrénaline quand on a au bout la personne au téléphone et que cette personne nous annonce « j'ai la photo ».
Cette question de se dépasser un petit peu pour une cause, on peut la retrouver aussi parfois dans la religion, dans la foi. Vous, la religion, c'est quelque chose qui vous parle ?
Alors, je ne suis pas pratiquant, parce que faute de temps, et puis je préfère le concret que...
Pratiquer la charité.
Que de passer du temps dans une église. Cela dit, j'apprécie ce moment, parce que ça m'est arrivé régulièrement. On a une église à la Landschale qui a l'avantage d'être très bien conservée et où on passe du temps pour justement la mettre en valeur, avec un tableau... incroyable qui nous a été, mais là c'est encore une autre histoire. Enfin, j'aurais tellement d'histoires qu'il faudrait la.
Oui, il faudrait une deuxième en fait. Émission.
Voilà, c'est ça.
Un tableau qui vous a été livré par un anonyme, me racontiez-vous, avant d'entrer dans le studio.
Voilà, c'est ça, un truc incroyable d'un monsieur qui ne se présente pas, qui m'appelle le 15 août 2020 et m'indique que devant chez moi, j'ai quelque chose qui était précédemment chez lui depuis les années 60 et il avait toujours entendu dire que ça venait de la Landschale. Et je me retrouve avec le tableau d'1m50 sur 1m20 qui représente l'adoration des mages, avec la Vierge Marie, Joseph, le petit Jésus, les rois mages, bien abîmés, bien dégradés.
Un tableau ancien.
Un tableau ancien qui a été expertisé. Alors malheureusement, la signature n'a pu être vérifiée, tellement il était abîmé. Donc il nous a été annoncé par les experts comme étant un tableau du 17e. Et toujours est-il qu'il a été restauré, donc il a une valeur juste de restauration. Pour le reste, c'est plus une valeur sentimentale et symbolique que de savoir quand même qu'on a un tableau du 17e dans notre église qui a été complètement restauré.
Oui, et puis qui est un peu tombé du ciel d'une certaine façon.
C'est ça, tout à fait.
Un bienfaiteur anonyme. Merci beaucoup Jean-Christophe Rouxel d'avoir été notre invité dans Délivrez-moi sur RCF. Merci Monsieur le Maire pour ce voyage en mer. Quant à vous, chers auditeurs, vous pourrez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. Merci d'avoir été à notre écoute. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Nous ouvrirons d'autres pages avec notre prochain invité.